Chapitre 27. Jenan à André. 28 septembre 1904. Pour nous, quelle impression nouvelle de savoir que dans la foule des eaux douces, on a un ami. Parmi ces étrangers qui nous resteront à jamais inconnus et nous considèrent de leur côté comme d'inconnaissables petites bêtes curieuses, savoir que peut-être un regard nous cherche, nous en particulier, par les autres pareillement voilés, savoir que peut-être un homme nous envoie une pensée d'affectueuse compassion. Quand nos caïques se sont abordés, vous ne me voyiez point, caché sous mon voile épais, mais j'étais là pourtant, heureuse d'être invisible, et souriant à vos yeux qui regardaient dans la direction des miens. Est-ce parce que vous avez été si bon et si simple, si bien l'ami tel que je le désirais l'autre jour, là-haut devant la mer Noire, pendant notre entrevue qui fut cependant presque sans parole? Est-ce parce que j'ai senti enfin, sous le laconisme de vos lettres, un peu d'affection vraie et émue? J'ignore, mais vous ne me semblez plus si lointain. Ô André, dans des âmes longtemps comprimées comme les nôtres, si vous saviez ce qu'est un sentiment idéal, fait d'admiration et de tendresse. Jenan. Ils correspondaient souvent à cette fin de saison pour leur périlleux rendez-vous. Elles pouvaient en voir assez facilement lui faire passer leurs lettres par quelques nègres fidèles qui arrivaient en barque à Therapia ou qui venaient le trouver dans l'exquise vallée du grand seigneur le soir. Et lui qui n'avait de possible que la poste restante de Stamboul, répondait le plus souvent par un signal secret en passant dans son caïque sous leurs fenêtres farouches. Il fallait profiter de ces derniers jours du Bosphore avant le retour à Constantinople où la surveillance serait plus sévère. Et on sentait venir à grands pas l'automne, surtout dans la tristesse des soirs. De gros nuages sombres arrivaient du nord avec le vent de Russie et des averses commençaient de tomber qui mettaient à néant parfois leurs combinaisons les plus ingénieusement préparées. Près de la plaine de Beikos, dans un bas-fond solitaire et ignoré, ils avaient découvert une petite forêt vierge autour d'un marais plein de nénuphars. C'était un lieu de sécurité mélancolique, enclos entre des pentes abruptes et d'inextricables verdures. Un seul sentier d'entrée où veillait Jean Renaud avec un sifflet d'alarme. Ils se rencontrèrent là deux fois au bord de cette eau verte et dormante, parmi les joncs et les fougères immenses, dans l'ombre des arbres qui s'effeuillaient. Cette flore ne différait en rien de celle de la France, et ces fougères géantes étaient la grande osmonde de nos marais. Tout cela plus développé peut-être à cause de l'atmosphère plus humide et des étés plus chauds. Les trois petits fantômes noirs circulaient au milieu de cette jungle, un peu embarrassés de leurs traînes et de leurs souliers toujours trop fins, et dans quelque endroit propice, ils s'asseyaient autour d'André pour un instant de causerie profonde ou de silence, inquiets de voir passer au-dessus d'eux les nuages d'octobre qui parfois assombrissaient tout et menaçaient de quelques lourdes ondées. Zeynep et Melek, de temps à autre, relevaient leur voile pour sourire à leur ami, le regardant bien dans les yeux avec un air de franchise et de confiance. Mais Jenan, jamais. André, avec tous ses voyages en pays exotiques, n'avait pas depuis de longues années vécu ainsi dans l'intimité des plantes de nos climats. Oh, ces roseaux, ces scolopendres, ces mousses, ces belles fougères d'osmonde lui rappelaient ainsi méprendre certains marais de ce pays où, pendant son enfance, il s'isolait de longues heures pour rêver aux forêts vierges, encore jamais vues. Et c'était tellement la même chose, ce marais asiatique et le sien, qu'il lui arrivait de se croire ici chez lui, replongé dans la première période de son éveil à la vie. Mais alors, il y avait ces trois petites fées orientales, dont la présence constituait un anachronisme élégant et charmant. Le vendredi 7 octobre 1904 arriva, dernier vendredi des Hofduers d'Asie, car les ambassades redescendaient la semaine suivante à Constantinople, et chez les trois petites Turques, on se disposait à faire de même. Du reste, toutes les maisons du Bosphore allaient fermer leurs portes et leurs fenêtres pour 6 mois de vent, de pluie ou de neige. André et ses amis avaient échangé leurs paroles de faire tout au monde pour se revoir ce jour-là aux eaux douces, puisque ce serait fini ensuite jusqu'à l'été prochain, si entouré d'incertitudes. Le temps menaçait, et lui, partant quand même dans son caïque pour le rendez-vous, se disait « On ne les laissera pas s'échapper avec ce vent qui se lève. » Mais lorsqu'il passa sous leur fenêtre, il vit sortir des grillages le coin de mouchoir blanc que Mélik faisait danser et qui signifiait en langage convenu « Allez toujours !»« On nous a permis, nous vous suivrons !» Aucun encombrement aujourd'hui sur la petite rivière, ni sur les pelouses environnantes où des colchiques d'automne fleurissaient parmi la jonchée des feuilles mortes. Peu ou point d'Européens, rien que des Turcs et surtout des femmes. Et dans les paires de beaux yeux qui laissaient à découvert les voiles blancs, mis comme à la campagne, on lisait beaucoup de mélancolie, sans doute à cause de cette approche de l'hiver, la saison où l'austérité des harems bat son plein et où l'enfermement devient presque continuel. Ils se croisèrent 2 ou 3 fois. Même le regard de Mélek, à travers son voile baissé, son voile noir de citadine, n'exprimait que de la tristesse. Cette tristesse que donnent universellement les saisons au déclin, toutes les choses près de finir. Quand il fut l'heure de s'en aller, le Bosphore, à la sortie des eaux douces, leur réservait des aspects de beauté tragique. La forteresse sarrasine de la rive d'Asie, au pied de laquelle il fallait passer, toute rougie par le soleil couchant, avait des créneaux couleur de feu. Et au contraire, elle semblait trop sombre, l'autre forteresse, plus colossal que du fait vis-à-vis sur la côte d'Europe, avec ses murailles et ses tours, échelonnées, juchées jusqu'en haut de la montagne. La surface de l'eau écumait, toute blanche, fouettée par des rafales déjà froides. Et un ciel de cataclysme s'étendait au-dessus de tout cela. Nuages couleur de bronze ou couleur de cuivre, très tourmentés et déchirés sur un fond livide. Heureusement, elles n'avaient pas long chemin à faire, les petites, en suivant le bord asiatique pour atteindre leur vieux quai de marbre, toujours si bien gardé, où leurs nègres les attendaient. Mais André, qui avait à traverser le détroit et à le remonter vent debout, n'arriva qu'à la nuit, ses bateliers ruisselants de sueur et d'eau de mer, les vestes de velours, les broderies d'or trempées et lamentables. À l'arrière-saison, les retours des eaux douces ont de ces surprises qui sont les premières agressions du vent de Russie et qui serrent le cœur comme l'accourcissement des jours. Chez lui, où il rameut en hâte ses rameurs transis pour les réchauffer, il entendit en arrivant une musiquette étrange qui emplissait la maison. Une musiquette un peu comme celle que les bergers faisaient à l'heure du soleil couchant, en face, dans les bois et les vallées de Baïkos d'Asie. Sur des notes graves, un air monotone, rapide, beaucoup plus vif qu'une tarentelle ou une fugue, et avec cela lugubre à en pleurer. C'était un de ces domestiques turcs qui soufflaient à plein poumon dans une longue flûte, se révélant tout à coup grand virtuose en turlututu plaintif et sauvage. « Et où as-tu appris ?» lui demanda-t-il. « Dans mon pays, dans la montagne, près d'Eskichevir. Je jouais comme ça le soir, quand je faisais rentrer les chèvres de mon père. Eh bien, il ne manquait plus qu'une musique pareille pour compléter l'angoisse sans causer sans nom d'une telle sortie et d'une telle soirée. Et longtemps, cet air de flûte qu'André se faisait rejouer en crépuscule conserva le pouvoir d'évoquer pour lui tout l'indicible de ces choses réunies. Le retour des eaux douces pour la dernière fois, les trois petits fantômes noirs sur une mer agitée rentrant à la nuit tombante s'ensevelir dans leur sombre harem au pied de la montagne et des bois, le premier coup de vent d'automne, les pelouses d'Asie semées de colchiques violets et de feuilles jaunes, la fin de la saison au Bosphore, l'agonie de l'été. Chapitre 28. André était réinstallé à Péra depuis une quinzaine de jours et avait pu revoir une fois à Istanbul, dans la vieille maison de Selim Sarnim, ses trois amis qui lui avaient amené une gentille inconnue, une petite personne dissimulée sous de si épais voiles que le son de sa voix était presque étouffé. Le lendemain, il reçut cette lettre. « Je suis la petite dame fantôme de la veille, monsieur Léry. Je n'ai pas su vous parler, mais pour le livre que vous nous avez promis à toutes, je vais vous raconter la journée d'une femme turque en hiver. Ce sera de saison, car voici bientôt novembre. L'effroi, l'obscurité, tout un surcroît d'ombre et d'ennui s'abattant sur nous. La journée d'une femme turque en hiver. Je commence donc. Se lever tard, même très tard. La toilette lente, avec indolence. Toujours de très longs cheveux, de trop épais et lourds cheveux à ranger. Puis après, se trouver jolie dans le miroir d'argent, se trouver jeune, charmante et en être attristée. Ensuite, passer la revue silencieuse dans les salons pour vérifier si tout est en ordre. La visite aux menus objets aimés, souvenirs, portraits, dont l'entretien prend une grande importance. Puis déjeuner, souvent seul, dans une grande salle, entouré de négresses ou d'esclaves circassiennes. Avoir froid aux doigts en touchant l'argenterie éparse sur la table. Avoir surtout froid à l'âme. Parler avec les esclaves, leur poser des questions dont on n'écoute pas les réponses. Et maintenant, que faire jusqu'à ce soir? Les harems du temps jadis, à plusieurs épouses, devaient être moins tristes. On se tenait compagnie entre soi. Que faire donc? De l'aquarelle? Nous sommes toutes aquarellistes distinguées, monsieur Léry. Ce que nous avons point plein d'écran, de paravent, d'éventail. Ou bien jouer du piano, jouer du luth, lire du Paul Bourget ou de l'André Liry. Ou bien broder, reprendre quelqu'une de nos longues broderies d'or et s'intéresser toute seule à voir courir ses mains, si fines, si blanches, avec les bagues qui scintillent. Oh, c'est quelque chose de nouveau que l'on souhaiterait et que l'on attend sans espoir, quelque chose d'imprévu qui aurait de l'éclat, qui vibrerait, qui ferait du bruit, mais qui ne viendra jamais. On voudrait aussi se promener malgré la boue, malgré la neige, n'étant pas sorti depuis 15 jours. Mais aller seul est interdit. Aucune course à imaginer comme excuse, rien. On manque d'espace, on manque d'air. Même si on a un jardin, il semble qu'on n'y respire pas parce que les murs en sont trop hauts. On sonne. Oh, quelle joie, si cela pouvait être une catastrophe ou seulement une visite. Une visite, oui, c'est une visite, car on entend courir les esclaves dans l'escalier. On se lève, vite une glace pour s'arranger les yeux avec fièvre. Qui ça, peut-il être? Ah, une amie jeune et délicieuse, mariée depuis peu. Elle entre, élan réciproque, main tendue, baiser des lèvres rouges sur les joues mates. Est-ce que je tombe bien? Que faisiez-vous, ma chère? Oh, je m'ennuyais. Bon, ben je viens vous chercher pour une promenade ensemble, n'importe où. Un instant plus tard, une voiture fermée les emmène. Sur le siège, à côté du cocher, un nègre. Dilaver, l'inévitable Dilaver, sans lequel on n'a pas le droit de sortir et qui fera son rapport sur l'emploi du temps. Elles causent, les deux promeneuses. Eh bien, aimez-vous Alibé? Oui, répond la nouvelle mariée, mais parce qu'il faut absolument que j'aime quelqu'un. J'ai soif d'affection. Ceci est en attendant, oh, si je trouve mieux plus tard. Eh bien, moi, je n'aime pas le mien, mais là, pas du tout. Aimer par force, non, je ne suis pas de celles qui se plient. Leur voiture roule au grand trot de deux chevaux magnifiques. Elles ne devront pas en descendre, ce ne serait plus comme il faut. Et elles envient les mendiants libres qui les regardent passer. Elles sont arrivées à la porte du bazar, où des gens du peuple achètent des marrons grillés. J'ai bien faim, dit l'une. Avons-nous de l'argent? Oh non. Mais dit laveur en a. Dit laveur, achète-nous des marrons. Mais dans quoi les mettre? Elles tendent leur mouchoir de dentelle. Tous les marrons leur reviennent là-dedans, où ils ont pris une odeur d'héliotrope. Et c'est tout leur grand événement du jour, cette dînette qu'elles s'amusent à faire là comme des femmes du peuple, mais sous le voile et en voiture fermée. Au retour, en se quittant, elles s'embrassent encore et échangent ces éternelles phrases de femmes turques entre elles. Allô? Pas de chimère, pas de regrets vains. Réagissez! Cependant, cela les fait sourire elles-mêmes, tant le conseil est connu et usé. La visiteuse est donc partie. C'est le soir. On allume de très bonne heure, car la nuit tombe plus tôt dans les harems à cause de ces quadrillages de bois aux fenêtres. Votre nouveau fantôme noir d'hier, monsieur Léry, se retrouve seul. Mais voici le bec qui rentre, le maître annoncé par un bruit de sabre dans l'escalier. Oh, la pauvre petite dame de Séant, encore plus froid à l'âme. Par habitude, elle se regarde dans une glace. L'image reflétée lui paraît vraiment bien jolie, et elle pense: toute cette beauté pour lui, quel dommage. Lui, insolemment étendu sur une pile de coussins, commence une histoire. Vous savez, ma chère, aujourd'hui au palais. Oui, oh, le palais, les camarades, les fusils, les nouvelles armes, c'est tout ce qui l'intéresse. Rien de plus, jamais. Elle n'écoute pas, elle a envie de pleurer. Alors on la traite de détraquée. Elle demande la permission de se retirer dans sa chambre. Et bientôt elle pleure à sanglots, la tête sur son oreiller de soie, lamée d'or et d'argent. Pendant que les Européennes à Péra vont au bal ou au théâtre, sont belles et animées, sous des flots de lumière. Chapitre 29. Pour la seconde fois depuis le retour du Bosphore, André et son trio de fantômes étaient ensemble dans la maison clandestine au cœur du vieux Stamboul. Vous ne savez pas, disait Melek, notre prochain rendez-vous ce sera ailleurs pour changer. Une amie à nous, qui habite à Mehmet Fatih, votre quartier d'élection, nous a offert de nous réunir chez elle. Sa maison, tout à fait turque, où il n'y a aucun maître, est une vraie trouvaille, calme et sûre. Je vous y prépare du reste une surprise, dans un harem plus luxueux que celui-ci et au moins aussi oriental. Vous verrez ça. André ne l'écoutait pas, décidé à brûler ses vaisseaux aujourd'hui pour essayer de connaître les yeux de Jenan, et très préoccupé de l'aventure, sentant que s'il s'y prenait mal, si elle se cabrait dans son refus, avec son caractère incapable de fléchir, ce serait fini à tout jamais. Or, cet éternel voile noir sur cette figure de jeune femme devenait pour lui un malaise obsédant, une croissante souffrance à mesure qu'il s'attachait à elle davantage. Pour savoir ce qu'il y avait là-dessous. Rien qu'un instant, saisir l'aspect de cette sirène à voix céleste pour le fixer ensuite dans sa mémoire. Et puis pourquoi se cachait-elle et pas ses sœurs? Quelle différence y avait-il donc? À quel sentiment autre et inavoué pouvait-elle bien obéir, la petite âme altière et pure? Une explication parfois lui traversait l'esprit, mais il la chassait aussitôt comme absurde et entachée de fatuité. Non, se disait-il toujours, elle pourrait être ma fille. Oh non, ça n'a pas le sens commun. Et elle se tenait là, tout près de lui. Il n'aurait eu qu'à soulever de la main ce morceau d'étoffe qui pendait à peine plus bas que la barbe d'un coup de balle masqué. Et pourquoi fallait-il que ce geste, si tentant, si simple, fût aussi impossible et odieux qu'un crime? L'heure passait et il serait bientôt temps de les quitter. Le rayon du soleil de novembre s'en allait vers les toits. Toujours ce même rayon sur le mur d'en face, dont le reflet jetait dans l'âme même un peu de lumière. Écoutez-moi, petit ami, dit-il brusquement. Il faut à tout prix que je connaisse vos yeux. Je ne peux plus, je vous assure, je ne peux plus continuer comme ça. D'abord, la partie est inégale, puisque vous voyez les miens tout le temps. Vous, à travers cette gaze double ou triple, je ne sais, qui est votre complice. Mais rien que vos yeux, si vous voulez, vous m'entendez bien. Au lieu de votre désolante chalchaffe noire, venez d'un yachmat la prochaine fois. En yachmak, aussi austère qu'il vous plaira, ne découvrant que vos prunelles et les sourcils qui concourent à l'expression du regard. Le reste de la figure, j'y consens. Cachez-le-moi pour toujours, mais pas vos yeux. Voyez, je vous le demande, je vous en supplie. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? Vos sœurs ne le font plus. De votre part, ce n'est que de la méfiance et c'est mal. Elle demeura interdite et silencieuse. Un moment pendant lequel lui entendait battre ses propres artères. Tenez, dit-elle enfin, du ton des résolutions graves. Regardez, André, si je me méfie. Et levant son voile qu'elle rejeta en arrière, elle découvrit tout son visage pour planter bien droit dans les yeux de son ami ses jeunes yeux admirables, couleur de mer profonde. C'était la première fois qu'elle osait l'appeler par son nom, autrement que dans une lettre. Et sa décision, son mouvement avaient quelque chose de si solennel que les deux autres petites ombres, dans leur surprise, restaient muettes, tandis qu'André reculait imperceptiblement sous le regard fixe de cette apparition, comme quand on a un peu peur ou que l'on est ébloui sans vouloir le paraître. Fin de la 4e partie.